Bonjour à toutes et à tous, il est midi 36 et le ciel est gris sur Paris.
À vous les studios, l'émission des ateliers radiophoniques de Radio Campus Paris.
Il n'y a pas très longtemps, je me suis retrouvée dans une terrasse à Rome à débattre avec deux mecs qui soutenaient que le mot féminicide n'avait pas de sens d'exister. Vous que nous, les femmes, on a envie d'être égales et on a envie de cette égalité. Alors le féminicide, ça devrait s'appeler homicide, tout simplement. Autant vous dire que nous, on aimerait bien être égales, surtout sur ce plan. Là, sans avoir besoin d'utiliser ce mot si épouvantable, mais c'est un peu plus compliqué qu'un simple choix lexical. Alors, vous avez pu intuire de mon petite histoire qu'aujourd'hui, on va parler de droits de femmes, de leur liberté, et surtout de pourquoi la journée du 8 mars s'est consacrée à elles et à leurs droits, depuis presque 50 ans déjà. Du coup, tout d'abord, on aura un micro-totoir de Sonia et Raghavi qui ont interrogé les passants pour savoir s'ils savaient ce que le 8 mars et débusquer les faux féministes. On va écouter après un débat. Il y aura ensuite une chronique éditée par Isaline sur le droit à l'IVG. Et pour finir, les récolts littéraires d'Andy.
À vous les studios, c'est vous qui faites l'émission.
Qu'est-ce que le 8 mars ?
Le 8 mars, c'est pas la journée des femmes.
C'est 8 mars 1945. Je sais pas, c'est la fête de Victoire, là.
Le droit des femmes, c'est tous les jours.
Ah d'accord, c'est la journée internationale des droits des femmes.
Ah, bah, c'est une très bonne journée. Ça,
oui,
c'est très bien.
Voilà.
Je pense qu'on n'aurait jamais dû faire ça. Il faudrait toujours avoir respecté les femmes.
Exactement.
Dès le départ. Mais on a un monde des cons, excusez-moi, de parler comme ça. Qui, les hommes, peu leur infériorité, ils écrasent la femme.
Ouais.
Parce que vous êtes très maligne et très intelligente.
Ah, merci beaucoup, monsieur. Merci
très féministe.
Okay. Super, merci beaucoup.
Bisous
monsieur.
À vous deux.
Bisous. Ah, ma mec, ça tout sait quand même. Le 8 mars, ma mec. Mais oui, la journée internationale des droits des femmes.
Ah. C'est la journée des droits des femmes. Bientôt, c'est la semaine prochaine, ouais.
Un truc pourri. Ok, merci. Merci.
Du coup, Sonia et Raghavi, dites-nous un peu plus ce que vous avez pensé de ces rencontres.
Eh bien, étonnamment, pour un arrondissement relativement aisé de la capitale, où les habitants seraient plus sensibles à cette cause, on a été surprise des réponses.
Oui, les réponses étaient assez mitigées et surprenantes. Hommes et femmes ne savaient pas forcément ce qui se passe le 8 mars. Et aussi, on a un peu ressenti une gêne des personnes qui n'arrivaient pas à répondre à la question.
On a interviewé surtout des personnes assez âgées, logiques, pour un vendredi en fin de matinée. Et la dernière réponse du micro-trottoir peut paraître surprenante, venant d'une femme. Mais finalement, la journée des femmes reste surtout un événement commercial avec des aspirateurs à moitié prix. Et c'est bien dommage.
Merci les filles. Bah là, on passe au débat. Le débat sur la pertinence de dédier une journée le 8 mars aux droits des femmes. On va écouter deux voix masculines pour le coup. Georges Poinlevé, militant et activiste pour la cause des femmes travaillant et travaillant à temps partiel dans l'assaut Femmes Émancipées, et Mister Tautignon, maire de la ville Cropignon. Du coup, dites-moi un peu plus. C'est quoi la pertinence de cette journée pour vous, messieurs Georges ?
Alors, merci pour le temps de parole, pour le temps que vous consacrez à cette journée qui est importante pour la gente féminine. Tout d'abord, nous allons nous permettre de définir un peu l'importance ou la création de cette journée. Le 8 mars, déjà, c'est une journée internationale des droits de femmes. Revêt une importance particulière dans notre société contemporaine. Cette date symbolique offre à l'occasion de réfléchir aux progrès réalisés en matière d'égalité entre gente féminine et gente masculine. Et tout en soulignant les défis persistants qui nécessitent d'être palliés.
Êtes-vous d'accord, alors, messieurs Tortignon ?
Écoutez, Georges, je vous arrête tout de suite. pour moi, quel est l'intérêt d'une journée des femmes, au final, ou des droits, peu importe comment vous voulez l'appeler, lorsqu'il y a déjà les droits de l'homme ? À mon avis, ce concept est importé des États-Unis avec le capitalisme, toutes ces choses-là. C'est une création de personnages politiques qui veulent dominer la France et le monde en inondant les médias de leur idéologie. Pour rappel, ils soutiennent des aberrations comme l'IVG qu'ils ont inscrit dans la Constitution française.
Alors, moi, je suis... Je n'adhère pas tellement à votre idéologie, en ce sens où, déjà, le droit de les femmes sont défendues chaque année, voilà. La lutte contre les agressions sexuelles, le sexisme et autres, ça a été en fait la lutte depuis la lutte des hommes depuis la nuit des temps. On n'attend pas que cette journée pour pouvoir en fait défendre les femmes ou défendre les droits des femmes. Mais cette journée est une journée aussi qui permet encore une fois d'exalter et de montrer le cri de cœur des femmes. Parce que dans notre vécu, on a des mères, on voit un peu, tout un chacun de notre quotidien, on voit un peu sur à quoi sont exposées les femmes. Je prends moi mon exemple comme ça, je suis issu en fait d'une famille divorcée et je sais ce par quoi ma mère est passée dans ce mariage, voilà, qui a pris fin de manière un peu drastique. Et en fait, c'est un fait, c'est un vécu. Toutes les femmes n'ont pas en fait cette capacité, n'ont pas cette volonté de crier à haute voix. Oui, j'en peux plus. Oui, je suis soumis à une stigmatisation, à une violence en permanence dans mon foyer et autres. Mais cette journée, ça permet aussi aux assos engagés de crier à la place de ces personnes, de prendre la voix de ces femmes qui n'arrivent vraiment pas à porter haut leurs pleurs, leur détresse, leur stigmatisation, tout ce qu'ils subissent dans les entreprises, dans les domaines comme même au niveau de l'éducation. Cette journée, elle est importante pour beaucoup de femmes.
Est-ce que c'est seulement important pour les femmes, du coup?
Alors, je veux dire, c'est très important pour les femmes. Mais en même temps, nous sommes dans une société où il y a des hommes aussi qui sont pas contre cette journée. Et je prends mon cas comme ça. Je travaille dans une association qui est une association engagée qui est dominée par des hommes, pas la gente féminine. Le directeur, c'est un homme, mais il a choisi comme pour thème de militer pour la cause des femmes. Donc en gros, c'est pas une journée typiquement dédié à la gente féminine, mais c'est une journée pour vraiment défendre la cause des femmes, toutes les personnes qui se sentent sensibles à la cause des femmes, à tout ce qui vit ces femmes. C'est un canal vraiment très important, une journée très importante pour eux, pour pouvoir en fait décrire le cri de cœur concernant la cause des femmes.
Alors, Georges, n'entendez pas que je suis contre les femmes ou leurs droits. Je suis pour l'égalité homme-femme. Mais vouloir réserver un jour, c'est suivre la mode actuelle de monopoliser un mois comme le font les LGBT. Disons que c'est pas ce dont on a besoin en ce moment. Et ça, c'est une honte, en fait, d'avoir un agenda politique qui est désastreux et qui aveugle sur la nécessité d'avoir un réarmement démographique, au final.
Alors, vous entendant parler, enfin, vos propos sont un peu... Je sais pas comment est-ce que je sais pas si je dois dire sexiste ou truc, mais je prends un exemple palpable. On ne fête pas tous les jours. Par contre, tous les jours peut être une fête. Donc du coup, c'est pas parce que cette journée elle a été dédiée pour défendre les droits des femmes qu'on va dire on attend uniquement cette journée pour pouvoir défendre les femmes, pour dire oui les femmes souffrent dans leur foyer, non. Mais cette journée, c'est encore une journée qui va permettre, encore une fois, de taper sur la table, de dire que la femme, elle a sa place. La femme, elle a besoin, en fait, d'avoir les mêmes privilèges que l'homme. La femme ne doit pas être un objet d'instruction ou un objet qu'on doit utiliser uniquement à la maison. Voilà.
Donc, tous les jours, c'est la Pride.
Bah, bon. Tout le jeu peut être la Pride.
Bon.
Merci pour votre intervention, c'était super intéressant d'avoir deux points de vue si différents. Et maintenant, c'est à ton tour, Isaline. Tu nous as préparé une petite chronique qui nous explique bien la différence entre droit et liberté de l'IVG, c'est ça ?
Oui, exactement. Alors, ce mercredi dernier, le Sénat a largement voté en faveur de l'inscription de la liberté garantie de l'IVG dans la Constitution à 267 voix pour et 50 contre. Donc la France devient alors le premier pays au monde à protéger l'avortement dans un texte fondamental, comme le souligne le ministre de la Justice Éric Dupond-Moretti le 28 février dans la Constitution.
Il y a des combats dont on se disait qu'ils étaient un peu derrière nous. Eh bien non, il faut revenir encore là-dessus. C'est pourquoi la constitutionnalisation du droit à l'IVG est indispensable.
Contraception ! On s'est battu pour les gagner, on se battra pour les garder.
Ici en France, bon nombre de centres d'IVG ont fermé puisque les moyens pour la santé sont en recul d'année en année. Aujourd'hui, il y a des femmes en France qui sont obligées de changer de département pour pratiquer une IVG.
Pour nous, c'est vraiment important d'envoyer un signal fort en France, de montrer qu'on constitutionnalise l'IVG. Je rappellerai quand même que le texte initial qu'on voulait porter, c'était le droit d'avorter et pas la liberté d'avorter, puisque plusieurs constitutionnalistes se sont positionnés pour dire que le droit d'avorter aurait été plus protecteur que la liberté.
Mais il ne faut pas oublier que la proposition de la loi du LFI adoptée par l'Assemblée nationale le 1er février 2024 a été complètement réécrite par le Sénat. En effet, ce dernier a complété l'article 34 de la Constitution avec la formule suivante : la loi détermine les conditions dans lesquelles s'exerce la liberté de la femme de mettre fin à sa grossesse. Ici, ce n'est alors pas une question de droit, mais de liberté. Donc selon maître Nadia Kebaili, la différence est subtile. En effet, la liberté est une capacité de faire alors que le droit en est presque une obligation. La femme a alors la liberté de recourir à l'IVG alors que le droit donnerait l'impression que ce recours est opposable à l'État. Seulement, la liberté propose à chaque femme qui veut avoir recours à l'IVG s'adresse aussi aux professionnels de la santé qui peut avoir le choix de le proposer. Je vous laisse écouter un extrait de ce que dit Gérard Larcher par rapport à l'IVG.
Mais vous, mais ça pour que ce soit inscrit dans la Constitution ?
Non, parce que je pense que la Constitution n'est pas... Je pense que l'IVG n'est pas menacée dans notre pays. Il y a déjà un certain nombre de décisions du Conseil constitutionnel qui garantit l'IVG. Si l'IVG était menacée, croyez-moi... Je me battrai pour qu'il soit maintenu. Mais je pense que la Constitution n'est pas un catalogue de droits sociaux et sociétaux. Et donc, je verrai quels sont les débats. Par tradition, je ne vote pas. Mais je vous donne un avis très personnel, en conscience. Je ne pense que la Constitution, ce n'est pas ce catalogue-là.
Donc, contrairement à ce que dit Gérard Larcher, peu de professionnels pratiquent les IVG, soit 2,9% des généralistes et gynécologues et 3,5% des sages-femmes, selon les autrices du rapport parlementaire de 2020, Marie-Noëlle Bastissel et Cécile Muscotti. Autre problème, la technique médicamenteuse qui offre moins de suivi est plus donnée, parfois systématiquement dans certains centres, que la technique instrumentale. Cela s'explique d'une part par le manque de professionnels formés à la technique instrumentale, mais aussi par une réelle non-volonté de pratiquer l'aspiration. De ce fait, en plus du manque d'accès à l'IVG, nous observons un réel manque de suivi. Quoi qu'il en soit, ce vote est une victoire pour les droits des femmes, comme l'a souligné la sénatrice écologiste Mélanie Vogel. La dernière étape aura lieu ce lundi. Le Congrès se réunira à son tour pour se proposer sur cette inscription de la Constitution.
Merci Isaline, c'était très intéressant. Et là, c'est avec Andy qu'on va parler. Elle va nous recommander un peu de livres à ce sujet.
La plus grande gloire pour une femme est qu'on ne parle pas d'elle, disait Périclès, qui était lui, un des hommes dont on parlait le plus. Voici un extrait du célèbre essai féministe de Virginia Woolf, Une chambre à soi, qui raconte les conditions d'accès des femmes à la littérature et à l'art avec beaucoup d'ironie. Dans ce pamphlet, l'autrice analyse l'émancipation féminine, la création artistique, les inégalités hommes-femmes à travers des phénomènes sociaux, politiques et économiques. Donc voici ma première recommandation littéraire pour cette journée de la femme, donc pour le 8 mars. J'en ai deux autres à vous proposer. Il y a Femme, vie, liberté, qui est le titre de la bande dessinée de l'autrice franco-iranienne Marianne Satrapi, mais c'est également le slogan politique de la contestation féminine en Iran et à l'international depuis le 16 septembre 2022, lorsque Mahsa Amini, 22 ans, succombe au coup de la police pour avoir mal porté son voile. Dans cette BD, trois spécialistes, Farid Vaid, politologue, Jean-Pierre Perrin, grand reporter, et Abba Milani, historien, qui sont accompagnés de 17 des plus grands talents de la bande dessinée, pour rendre hommage à cet événement majeur pour l'Iran, ainsi que pour rappeler le contexte historique du mouvement Femmes, Vie et Liberté. Ma dernière recommandation littéraire est le premier essai de la féministe afro-américaine Bell Hooks, publié en 1981, « Ne suis-je pas une femme ?», qui tire son titre du célèbre discours de Sojourner Truth, ancienne esclave abolitionniste noire des États-Unis. Hooks y parle des effets du racisme et du sexisme sur les femmes noires, du mouvement des droits civiques, des mouvements féministes depuis des luttes pour le droit du vote jusqu'aux années 1970.
Merci. Pour le coup, moi aussi, j'ai lu la bande dessinée de Vie Liberté et ça vaut vraiment le coup d'y jeter un oeil. On est à la fin de l'émission, c'était cool. Merci. À la prochaine.
Bienvenue sur Radio Campus 93 FM. Vous écoutez l'Actu Tour.
À vous les studios, l'émission des ateliers radiophoniques de Radio Campus Paris.
Aujourd'hui, nos chroniqueurs Amrou, Christine et Robespierre nous parleront respectivement de l'actualité politique à Gaza et à Haïti. Ensuite, on aura la table ronde de l'internaute articulée autour du thème de l'orientation aujourd'hui.
À vous les studios, les ateliers de Radio Campus Paris.
Nous sommes donc avec Amrou qui va nous parler de l'actualité en Palestine suite à la tuerie du 2 mars dernier où plus d'une centaine de civils sont décédés lors d'une distribution alimentaire.
Alors oui Alexis, jeudi dernier, des soldats de l'armée israélienne Tsahal ont tiré à balles réelles sur des Palestiniens qui se ruaient sur des camions d'aide humanitaire à Gaza. Selon le ministère de la Santé du Hamas, 115 Gazaouis ont été tués et 760 sont blessés. Sur ce drame, deux versions s'opposent. D'un côté, l'armée israélienne rejette sa responsabilité dans la lourdeur du bilan humain, puisque le porte-parole de Tsahal a déclaré que la plupart des Palestiniens sont morts de piétinement durant une bousculade. De l'autre côté, plusieurs témoins présents sur place lors de la tragédie ont affirmé une version différente. Ahmed K, un Gazaoui de 37 ans, a notamment témoigné pour le journal Libération et a déclaré, je cite, « Il y avait des snipers et des tanks qui ont commencé à tirer sur des gens qui attendaient de l'aide. J'ai commencé à voir des gens tomber autour de moi, un homme s'est pris une rafale dans les jambes. » En tout cas, une chose est sûre, des tirs ont bel et bien eu lieu de la part de l'armée israélienne sur des civils, des coups de feu qui sont reconnus par les autorités israéliennes et qui affirment des tirs limités venant de soldats qui ne se sont sentis menacés. La communauté internationale, quant à elle, s'indigne face à cette situation. Le président de la France, Emmanuel Macron, a notamment déclaré sur X être profondément indigné et demande la vérité, la justice et appelle au respect du droit international. Aux États-Unis, le porte-parole du département d'État a présenté ses condoléances aux victimes et a déclaré, je cite, « Une enquête est en cours, nous suivrons cette enquête de près et nous ferons pression pour obtenir des réponses. » En réponse, justement, l'armée israélienne a entamé un examen plus approfondi du drame qui sera pris en charge par un organisme indépendant, professionnel et spécialisé qui communiquera ses résultats dans les prochains jours afin d'en savoir plus sur ce qui s'est passé. Le drame s'est déroulé, comme je l'ai dit plus tôt, lors d'une distribution d'aide humanitaire, une aide vitale puisque la population gazaoui est soumise à un fort risque de famine généralisée, presque inévitable et imminente selon les déclarations de l'ONU. Cette famine inquiète d'autant plus lorsque l'on sait que le ministère de la Santé palestinienne a annoncé vendredi dernier que plus de 10 enfants sont morts uniquement de déshydratation et de malnutrition. Aujourd'hui, le bilan à Gaza s'élève à 30 228 000 morts, selon le ministère de la Santé du Hamas, et ce dernier fait par ailleurs état d'au moins une centaine de morts de manière quotidienne depuis le 7 octobre.
Merci Amrou pour ces précieuses informations. Passons désormais à notre second sujet politique du jour, l'actualité à Haïti, suite à la déclaration de l'état d'urgence par le gouvernement ce 3 mars dernier. Christine Robespierre, c'est à vous.
Merci. Alors aujourd'hui, on va vous parler d'Haïti, ce petit pays situé sur l'île d'Hispaniola, dans la Caraïbe, première république noire et anciennement connue comme étant la perle des Antilles. Entre insécurité, guerre des gangs et famine, le pays aujourd'hui est fortement touché depuis plusieurs années. Les gangs dominent et face à cela, le premier ministre temporel Ariel Henry s'est rendu le 1er mars au Kenya afin de signer un accord pour l'intervention de 1000 policiers kenyans pour lutter contre le banditisme en Haïti. Ici en France, le premier lanceur d'alerte concernant la situation actuelle sur l'île a été Balou, personnalité publique française et fondateur du média French Plug, qui a relayé l'info via la plateforme Twitter, contacté par des habitants de Port-au-Prince pour relater la situation. Pourrais-tu nous expliquer actuellement la situation, Robespierre ?
Alors, merci beaucoup Christine. La situation est très délicate aujourd'hui à Haïti. Les rues de l'île sont marquées par des affrontements entre gangs armés dont la population est la première victime. Les citoyens vivent dans la peur constante, craignant pour leur sécurité et celle de leurs proches. Les gangs armés exercent un contrôle quasi absolu dans certains quartiers, imposant leurs lois par la force. Les enlèvements sont fréquents sur l'île, touchant les civils de tout âge et de tout milieu social. Les familles sont souvent forcées de payer des rançons pour la libération de leurs proches. La population, pour fuir ces zones de conflit, sont contraintes de quitter leur foyer, leur maison, de quitter leur ville, voire carrément de quitter le pays. Plus de 62 000 Haïtiens ont quitté le pays depuis 2022, principalement vers les USA, le Canada et le Mexique. L'insécurité et l'anarchie finissent obligatoirement par affecter l'économie du pays, accentuant la pauvreté générale. Les conflits entre gangs empêchent la population d'accéder aux ressources essentielles telles que la nourriture, l'eau potable et les soins médicaux. Je tiens aussi à parler d'un point important, souvent ignoré, les traumatismes psychologiques qui sont très répandus dans la population. Les témoins de violences extrêmes et victimes d'enlèvements, souvent avec violence, souffrent de séquelles émotionnelles durables. L'éducation est perturbée, le travail est perturbé, la santé en pâtit. Plusieurs ONG et organisations internationales tentent d'intervenir pour calmer la situation et aider les Haïtiens, mais rien ne semble vraiment fonctionner pour le moment. Je laisse la parole à Marvin qui va nous donner quelques chiffres.
Une centaine de prisonniers ont réussi à sortir du plus grand centre carcéral de Port-au-Prince. Parmi les évadés, des mercenaires qui seraient impliqués dans la mort de Jovenel Moïse, ancien chef d'État haïtien selon les informations de Radio-Canada Info. Dû à l'agitation, le nombre de prisonniers anciennement sur place est abstrait et fait débat. En effet, 3800 détenus sur place selon Étienne Côté-Paluc de Radio-Canada Info et 4000 évadés avec tout de même 99 personnes qui ont décidé de rester incarcérées selon Radio-Télémétronome. Conséquence de cette crise, coups de feu, tensions et confrontations musclées avec les forces de l'ordre. Au total, des blessés et une vingtaine de morts dans chacun des camps et une dizaine de détenus sont morts en tentant de s'évader. Sur l'Africa News, 5 officiers de police ont perdu la vie ces dernières 24 heures. Alors la crise que connaît Haïti aujourd'hui est multifactorielle et c'est surtout la population qui est victime de toutes ces violences. L'état d'urgence a été déclaré et plusieurs pays comme le Kenya et le Bénin semblent être prêts à intervenir militairement pour aider le pays. Le pays est dans une situation de grand changement et ce qui se passe aujourd'hui déterminera l'avenir du pays.
Merci à vous trois pour cette chronique très enrichissante. C'est maintenant l'heure de notre table ronde de l'internaute, avec aujourd'hui comme thème la question de Guillaume qui sur internet nous demande « J'ai 20 ans, je suis étudiant en dernière année de sciences économiques et sociales et je me pose beaucoup de questions tant sur mon avenir professionnel que sur mon parcours scolaire à venir. Avez-vous des conseils ?» Nos intervenants Elina et Mariama débattront sur le sujet, le tout modéré par Claire. Vous pouvez y aller.
Selon une étude de l'INSEE, 53% des jeunes ayant entre 18 et 19 ans se dit plutôt optimiste quant à ses chances de trouver un emploi. Cependant, il y a beaucoup de situations d'interrogation chez les étudiants, notamment sur leur futur. Que doivent-ils faire? Où doivent-ils aller? Doivent-ils continuer leurs études, partir à l'étranger ou encore doivent-ils s'insérer dans le monde du travail? C'est pourquoi aujourd'hui nous allons répondre à la question de l'internaute Guillaume qui nous dit « J'ai 20 ans, je suis étudiant en dernière année de sciences économiques et sociales » et je me pose beaucoup de questions, tant sur mon avenir professionnel que sur mon parcours scolaire à venir. Avez-vous des conseils ? On retrouve alors Maria Majata et Elina Machias autour d'une table ronde. Pouvez-vous vous présenter et nous en dire un petit peu plus sur votre parcours ?
Bonjour à tous, je m'appelle Maria Majata et je suis actuellement étudiante en troisième année de licence en information communication à l'Université Sorbonne Paris Nord de Villetaneuse.
Alors moi c'est Elina Mathias, j'ai 20 ans et je suis étudiante en licence information communication à l'Université Sorbonne Paris Nord de Villetaneuse.
D'accord. En tant qu'étudiante et future diplômée du coup de votre licence, où vous voyez-vous, est-ce que vous voyez dans la vie active ou est-ce que vous voyez plutôt continuer vos études pour l'année prochaine ?
Alors pour ma part, je ne me projette pas nécessairement dans la vie professionnelle immédiate, mais je me vois plutôt poursuivre mes études afin d'acquérir davantage de compétences. Actuellement, je ne suis pas certaine de mes aspirations futures, mais j'ai un intérêt particulier pour le domaine de la communication dans le sport et j'envisage de travailler dans ce secteur en aidant les athlètes à se développer donc, sur les réseaux sociaux, tout en mettant en lumière les coulisses de leur vie d'athlète.
Alors, personnellement, en tant qu'étudiante et future jeune diplômée, je suis assez indécise sur mon avenir proche. Mon ambition personnelle, c'est vraiment de prévoir en fait, une année de césure en perspective afin d'apprendre plus précisément l'anglais, la langue anglaise. Et justement, j'irai sur un master en alternance par la suite, en fait. Et après, c'est vraiment une idée qui est précise dans ma tête de continuer sur un master plus tard.
D'accord. Et on le sait que maintenant, c'est de plus en plus difficile de s'insérer dans le marché du travail. Est-ce que vous appréhendez votre insertion dans le marché du travail maintenant ou plus tard ?
Alors, de mon côté, j'ai quelques appréhensions concernant mon entrée sur le marché du travail, car je ne me vois pas forcément travailler dans quelque chose de routinier. J'aimerais plutôt trouver un travail qui me permettrait de voyager à travers le monde entier, et où il y a toujours de la nouveauté et où la monotonie n'a pas sa place.
C'est vrai que la routine, personnellement, me fait un peu peur, quelque part. Le fait de se lever tous les matins pour assurer son poste dans une entreprise et continuer à l'assurer durant des années. Mais encore une fois, c'est une question qui est extrêmement subjective, si je puis dire, parce que c'est un rythme de vie qui convient à beaucoup de personnes. Comme ça peut me convenir plus tard quand je rentrerai dans le marché du travail, c'est vraiment très personnel.
Et selon vous, pourquoi il y a autant d'interrogations sur le futur ? Pourquoi autant d'étudiants ont peur du futur et pourquoi ça fait aussi peur ?
Alors, je pense que les étudiants ressentent souvent de l'incertitude quant à leur avenir en raison de la difficulté à prédire ce qui va se passer. Ils craignent de ne pas trouver d'opportunités professionnelles dans leur domaine, de s'adapter aux changements du monde. Et de plus, il ne faut pas oublier que les étudiants reçoivent beaucoup de pression sociale qui les pousse à se comparer aux autres, que ce soit à travers les réseaux sociaux, dans la vie en général, et ce qui peut entraîner forcément beaucoup d'anxiété et beaucoup de stress.
Je pense que le futur, ça fait aussi un peu peur parce que c'est quelque chose qu'on ne connaît pas. Le futur, ça représente l'inconnu. Le fait de se lancer dans un projet inconnu, ça nécessite de l'audace et du courage. Et l'appréhension est donc compréhensible quelque part. La pression sociale et la pression familiale, ça peut aussi jouer dans ce cas-là. Et on peut se sentir très vite contraint de choisir une voie que l'on n'a pas choisie par peur du regard et du jugement des autres. Et on a toujours peur quelque part de mal faire, de faire les mauvais choix, mais je pense qu'il n'y a pas de chemin prédéfini, c'est propre à soi-même et à ses envies et ses ambitions.
Pour terminer, la dernière question qu'on pourrait évoquer pour répondre du coup à notre internaute, c'est avez-vous des conseils pour appréhender l'avenir ?
Personnellement, si je devais donner des conseils, je dirais qu'il est important d'écouter ses propres choix et de ne pas se comparer aux autres, parce que chacun a son parcours, chacun a sa vision de la vie, et je pense qu'il est essentiel de se rappeler que chaque individu aura son propre parcours et que les réussites des autres ne définissent pas nos propres valeurs personnelles.
Le jeu, c'est de se faire confiance, de s'écouter et de croire en soi. Si on considère que ce projet, il est bon pour nous, je conseille personnellement de l'entreprendre car il n'y a pas de mauvais chemin et les erreurs de parcours font partie de la construction du projet, ou si je puis dire. Et c'est ce qui le fleurit et lui permet de le rendre unique et authentique.
En espérant avoir éclairé la lanterne de notre internaute Guillaume. L'émission touche donc à sa fin. Je voudrais d'abord remercier toutes nos équipes, nos chroniqueurs, Amrou, Christine, Marvin, Robespierre, Elina, Mariama et Claire. Merci à Nora pour la réalisation également. Et donc il ne me reste plus qu'à vous souhaiter une bonne journée. Merci de nous avoir écoutés, c'était l'Actu Tour sur Radio Campus.
Mesdames, Mesdemoiselles, Messieurs, bonjour, bienvenue dans Mediactu, votre émission consacrée aux médias. Vous écoutez Radio Campus Paris, il est midi 13.
À vous les studios, l'émission des ateliers radiophoniques de Radio Campus Paris.
Bonjour, bonjour, bienvenue à tous, merci d'être avec nous. Vous êtes sur Radio Campus Paris, nous sommes étudiants de l'Université Sorbonne Paris Nord. Et aujourd'hui, nous sommes dans Mediactu, une émission qui revient sur l'actualité des médias et bien plus, parce que les médias, ça concerne un nombre incalculable de sujets. C'est l'événement médiatique de la semaine dernière. Le jeudi 29 février dernier, la chaîne d'information en continu CNews, appartenant au groupe Canal+, fut auditionnée dans le cadre d'une commission parlementaire à l'initiative de Christophe Deloire, secrétaire général de Reporters sans frontières. Au sein de ces auditions, la chaîne du Canal 16 de la TNT a été passée au crible. Animateurs, émissions, thèmes, sujets, intervenants, bien l'angle de certains thèmes, de certains bandeaux a même été questionné, notamment avec le rapporteur député insoumis Aurélien Saint-Toul. S'il y a bien une chose que cette chaîne ne sait pas faire, c'est de ne pas faire parler d'elle en cause, notamment durant cette période d'audition. Un sujet diffusé dans une émission sur représentant l'IVG comme une source de mortalité au même titre que le cancer et le tabac. En bref, de manière plus générale, comme avec l'impact immense de l'arrivée de Vincent Bolloré, le milliardaire assez connu maintenant du groupe Canal+, le montre, la transformation de iTélé en CNews est un exemple parfait du poids de l'actionnariat dans les contenus éditoriaux choisis. Dans cette émission, beaucoup de sujets et beaucoup de choses à dire, avec notamment ceux qui sont avec moi autour de la table. Bonjour Amama. Bonjour Mathieu.
Bonjour.
Bonjour Maxime.
Bonjour
Elias. Et Ibrahim, qui n'est pas là, nous rejoindra en fin d'émission pour évoquer avec une chronique intitulée « Le temps additionnel ». Dans cette émission, Mathieu, tu reviendras sur la commission plus en détail avec ceux qui ont participé, avec les tenants et les aboutissants. Ensuite, nous enchaînerons avec Amama et Maxime pour un débat, notamment sur la question de « Est-ce que CNews est une chaîne d'information ou pas ?» en cause notamment la réattribution de ces canaux sur la télévision numérique terrestre. Et après une pause musicale, nous interviewerons Rosalie, que vous allez peut-être découvrir si vous ne la connaissez pas encore ici sur Radio Campus Paris. Après cette interview-là, qui je pense va être passionnante, nous recevrons Amama. Enfin, Amama est déjà là, mais elle est toujours là, Amama. Mais Amama sera là pour nous évoquer un sujet d'actualité très important au sujet de l'éducation, et je vous conseille d'être là. Et comme le disais-je précédemment, Ibrahim sera là pour conclure en beauté la cerise sur le gâteau, cette émission.
À vous les studios, les ateliers de Radio Campus Paris.
Mathieu, je le disais, il y a beaucoup de choses à dire sur cette commission qui s'est déroulée le jeudi 29 février. Je te laisse éclairer nos auditeurs.
Alors, bonjour à toutes et à tous. Alors oui, comme expliqué au début de l'émission, tout au long de la journée du 29 février 2024, de 9h du matin à 17h de l'après-midi, le groupe Canal+, représenté par Maxime Saada, président du directoire du groupe de Canal+, et les chaînes du groupe de Vincent Bolloré. Alors, excusez-moi parce qu'il va y avoir un côté un peu exhaustif, mais c'est très important, je pense. Côté CNews et C-Star, et notamment C8, ils étaient représentés par la direction du groupe Canal+, Jean-Christophe Thirier, président du conseil de surveillance du groupe Canal+, et gérant de CNews. Il y avait Gérald Brice-Viret, directeur général de Canal+ France, en charge des antennes et des programmes, Laetitia Ménassé, secrétaire générale du groupe Canal+, Serge Nedjar, directeur général de la chaîne CNews, directeur de la rédaction Thomas Bauder. Il y avait les présentateurs vedettes de CNews tels que Pascal Praud, Laurence Ferrari et Sona Mabrouk qui étaient auditionnés.
Ça fait du beau monde.
Beaucoup de monde. Alors, le but de cette commission d'enquête de l'Assemblée nationale était, je cite, de chercher à faire la lumière sur l'attribution et le contrôle des autorisations de fréquence sur la TNT, selon ses propres propos. Le député Renaissance, Quentin Bataillon, s'est lui dressé en tant que président de la commission, s'efforçant d'être le médiateur parmi les députés présents de tous bords politiques, à l'image d'Émeric Caron, député de LFI, ou de Philippe Ballard, du Rassemblement National.
Deux personnes qui, je le précise, étaient dans la télévision avant.
Bien sûr, exactement. Voilà. Bien sûr, bien sûr. Alors, tout est limité à 2 minutes maximum pour pouvoir poser des questions avec la possibilité de relancer les auditionnés. Et de son côté, le rapporteur était donc, comme vous l'avez dit, Aurélien Saint-Toul, membre de LFI. Alors, comment on en est arrivé là? On peut revenir notamment au mardi 13 février 2024, car l'ONG Reporters sans frontières, donc RSF, fait appel au Conseil d'État, qui est l'autorité administrative et ou publique indépendante française. Donc c'est la plus haute juridiction.
Là, on est sur un autre stade.
Bien sûr, on est sur la plus haute juridiction.
Ce qu'il faut rappeler pour les auditeurs qui nous écoutent, qu'il y a l'ARCOM qui dirige les médias.
Exactement.
On peut faire des signalements à l'ARCOM si on voit un contenu à la télé qui ne nous plaît pas. Quand Reporters sans frontières va voir le Conseil d'État, c'est qu'on a dépassé un stade.
Oui, tout à fait. Et du coup, cette plus haute juridiction administrative, elle doit, je cite, garantir la sécurité juridique des projets de texte qui lui ont été soumis. Donc c'est ça, c'est selon le ministère de la Justice. Alors, c'était dans le but de demander à l'ARCOM, donc la plus haute autorité de régulation de la communication audiovisuelle et numérique. Donc
la police de la télé.
Exactement, ex-CSA, rappelons-le, ouais. De faire respecter plusieurs règles afin de pouvoir paraître gratuitement sur les fréquences de la TNT. En effet, depuis le lancement de cette dernière en 2005, les chaînes doivent respecter un cahier des charges pour pouvoir paraître. Pour celles qui sont privées, elles sont renouvelées tous les 10 ans, mais ça peut être aussi tous les 5 ans. Donc parmi celles-ci, il y avait le pluralisme dans les médias.
Les invités.
Exactement, les invités.
Les sujets choisis.
Bien sûr. Et puis aussi les chroniqueurs, les éditorialistes, voilà.
Et donc il y a des sanctions si la chaîne ne respecte pas...
Oui, bien sûr, tout à fait. Il y a des sommes d'argent assez conséquentes.
Des amendes
qui peuvent être demandées à ces chaînes-là. Rappelons quand même que bon, c'est le directeur de CNews qui a rappelé qu'il n'avait pas eu énormément d'amendes ces dernières années. Je peux prendre par exemple les 1 euro qui ont été cités à la commission en 2021, donc très peu en termes d'amendes. Bon, je vais finir là-dessus.
Après, il y a les amendes du groupe Canal+, avec Cyril Hanouna, notamment avec Louis Boyard, qui a dû payer 3,5 millions d'euros.
Exactement.
On est sur un autre stade, bien sûr, mais ça concerne le même groupe.
Donc, exactement.
Ce groupe-là de télévision est coutumier du fait.
Oui, tout à fait. Mais elle rappelle, notamment, justement, dans l'édition, qu'il n'y a pas énormément d'amendes qui ont été payées et qui vont jusqu'au bout, notamment avec les appels.
C'est ce qu'elle dit.
C'est la version
de la chaîne.
Exactement, c'est ce qu'elles disent. Bon, alors je vais m'arrêter là malheureusement parce que je devais parler des médias, mais il y a encore énormément de choses à dire. Rien n'est encore terminé. Je rappelle que selon certains médias, le 14 mars, il y aura peut-être l'audition de Cyril Hanouna. Voilà, pour
ses bits. Pour l'instant, il a dit qu'il ne viendrait pas.
Voilà. Alors, c'est la question
libre,
qui se pose,
libre à lui.
Évidemment.
Libre à lui.
Mais voilà, donc. On en saura plus un peu plus tard. Merci à tous.
Bah écoutez, merci beaucoup Mathieu pour cette chronique. Ça veut dire quand même quelque chose, c'est que le canal 16 attribué à CNews est potentiellement...
Oui, tout à fait.
Remise en question.
Exactement,
sur la sellette, je ne sais pas, mais remise tout en question, fait. En tout cas, c'est une information tout très fait. Intéressante. Donc encore une fois, merci beaucoup pour cette chronique. Et justement, quoi de mieux que de parler de cette commission-là pour introduire le débat. Mais je crois que juste avant d'introduire le débat, on a quelqu'un qui souhaite évoquer quelque chose. On l'écoute.
C'est drôle parce que ça infuse quand même. Vous voyez, les gens, d'abord, les gens n'ont pas tous vu l'audition en direct, ils l'ont vu sur les réseaux. Ça infuse, tu vois, le profil, j'ai envie de dire, intellectuel, psychologique de celui qui interroge. C'est toujours intéressant de voir la patte humaine, de voir dans d'autres...
Je dirais la patte politique, même.
Pas terminé. Dans d'autres...
ah non, j'ajoutais une insiste.
Dans d'autres circonstances, dans d'autres époques. Comment serait-il ?
Ah oui.
C'est intéressant de voir. Voilà, dans une autre époque, en fait, il te coupe la tête, quoi, pour dire les choses clairement.
Rebonjour à Mama. Rebonjour Maxime.
Bonjour.
Alors, juste avant de commencer le débat, qu'est-ce que vous avez pensé un petit peu là, de cette commission qui s'est passée ? C'était vraiment l'événement médiatique de la semaine dernière. En un mot, est-ce que vous avez suivi cette commission-là ? Est-ce que vous en avez pensé quelque chose en particulier ?
Pour ma part, j'ai pu la suivre que de loin, malheureusement, mais à mon sens, cette commission était nécessaire. CNews et le groupe Canal sont un groupe qui fait beaucoup parler de lui, qui fait couler beaucoup d'encre,
ouais,
notamment en termes aussi de véracité des propos, et même le nombre d'amendes ont explosé des records qui n'ont jamais été attribués par l'ARCOM et son ancien, le CSA.
Bien sûr.
Donc c'est aussi des choses sur lesquelles on pourra revenir dans le débat avec notre camarade Mathieu.
Oui, bien sûr, parce que ce débat-là met en question, en tout cas cette commission-là met en question le rôle de CNews, parce qu'il y a d'autres chaînes d'information en continu qui sont concurrentes, il y a BFM, on peut citer LCI, France 24, si vous avez le moyen de pouvoir capter cette chaîne. En tout cas, est-ce que Maxime, je vais commencer avec vous le débat, mais... Est-ce qu'on peut vraiment dire que CNews est une chaîne d'information en continu ? Parce que moi, je suis un téléspectateur je switch de temps en temps, mais dès que j'arrive sur CNews, c'est souvent des débats, c'est pas vraiment des actualités. On pourrait dire même que c'est une chaîne d'opinion, pourquoi pas ?
Bah, déjà, il faudrait définir ce qu'est une chaîne d'information. Une chaîne d'information, c'est une chaîne qui capte l'information et qui la traite. Sur cette définition-là, CNews répond parfaitement aux exigences. C'est-à-dire que elle reçoit les informations, elle en parle sous forme de débat. Donc, je ne vois pas où est le problème là-dedans.
D'accord. Et est-ce que vous considérez que, par exemple, iTélé avant était aussi une chaîne d'information depuis 2005, on le rappelle.
Oui.
Là, c'est CNews. Donc, il y a M. Bolloré qui est arrivé en tant qu'actionnaire principal du groupe Canal+. il a relativement transformé de manière éditoriale cette chaîne. Est-ce que vous pensez que CNews remplit encore le rôle pour informer correctement? On a parlé notamment de la situation dans la commission de Gaza, de cette chaîne qui aurait volontairement peut-être occulté certains faits pour des raisons éditoriales propres à cette chaîne. Est-ce que vous pensez que CNews a encore, comment dirais-je, cette volonté-là d'informer, ou vraiment on est sur un contenu qui est quasiment censuré sur certains sujets?
À mon sens, on est plutôt sur de l'entertainment, de l'information.
D'accord.
Les émissions phares, donc l'heure des pros de Pascal Praud notamment, sont là vraiment aussi pour instrumentaliser aussi un petit peu l'actualité, en faire un fait de divertissement, de débat, et c'est aussi des émissions qui clivent notre société à l'heure actuelle.
Du spectacle, c'est ça que vous voulez
exactement,
me dire.
Exactement, c'est du spectacle de l'information, je trouve, et on est plus proche de la désinformation dans certains cas, comme aujourd'hui, on a l'inscription de l'IVG dans notre Constitution.
Ah oui, ça, c'était un épisode aussi.
N'oublions pas aussi qu'il y a quelques jours, Christine Kelly avait mis en lumière...
Alors, c'était une émission, oui. C'était une émission qui s'appelait... Je n'ai plus le nom de l'émission. Une émission qui était sur la foi chrétienne, diffusée tous les dimanches, je crois, et qui est une émission qui a mis, effectivement, oui, vous avez besoin de le rappeler.
On diffusait une infographie qui illustrait l'IVG comme cause de mortalité.
Voilà.
Donc, dans un contexte actuel, on ne peut pas se permettre de véhiculer ce genre d'informations, bien qu'un message d'excuse a été transmis après par la chaîne. Dans une émission qui passe sur une chaîne de la TNT accessible gratuitement à tous, c'est des choses qui sont inacceptables, à mon sens.
Et ça a été qualifié comme une erreur. Hein. La chaîne a présenté ses excuses. Ça arrive à tout le monde de véhiculer une mauvaise information. Bon, il ne faut pas que ça arrive tout le temps, mais ça arrive de faire une erreur comme ça et... la chaîne s'est excusée.
Bien sûr, la chaîne s'est excusée, je l'ai souligné, mais c'est malheureusement pas la première fois que ça arrive pour CNews.
Vous avez un autre exemple?
Quand il y a eu l'effet de massification aussi des médias par rapport aux punaises de lit dans les transports en commun, CNews avait repris quand même, dans l'heure des pros, toujours animée par Pascal Praud, le fait d'actualité comme potentiellement les immigrés sont responsables de la venue des punaises de lit dans les transports en commun, alors que c'était...
Alors, c'est pas exactement ce qu'il a dit. Il a lancé un débat là-dessus. Donc, c'était une hypothèse, d'accord ?
Je l'entends très bien que c'était une hypothèse. Mais quand ce débat est animé par des personnes majoritairement d'extrême droite, qu'il n'y a personne aussi pour contrer cette opinion, on est un peu aussi dans une désinformation. S'il y a une seule opinion qui circule sur la chaîne, qui a un manque de pluralisme, on est tout simplement dans ce cercle de désinformation et on reste aussi dans une certaine bulle de filtre des opinions.
Et je vais me faire un peu l'avocat du diable, comme le disait Maxime il y a quelques temps. CNews, on peut parler de tout ce qu'elle fait, des animateurs qu'elle choisit, des intervenants, que ça soit de droite ou d'extrême droite, mais ça marche. Enfin, force est de constater que le canal 16 de la TNT est passé devant BFM, c'était une chose impensable, il n'y a même pas ne serait-ce que 3 ans de cela. Aujourd'hui, CNews est quasiment première chaîne d'information. Il y a des émissions qui marchent tellement bien qu'elles sont diffusées en même temps avec Europe 1, puisque Europe 1 a rejoint le groupe de Bolloré, le groupe Lagardère, avec le JDD également. Donc, certes, on peut se poser des questions, mais si d'un côté, il y a des gens qui veulent voir BFM, ils peuvent aussi aller voir CNews. Il y a deux fenêtres.
Je l'entends totalement, hein, mais il y a aussi une certaine droitisation de l'information, notamment sur les canaux publics. Mis à part, France Info, qui est une chaîne du service public,
oui,
qui fait partie du groupe France TV.
France Télévisions, oui.
France Télévisions. CNews, anciennement iTélé, on n'avait pas aussi tous ces problèmes-là qu'on a pu rencontrer avec CNews. On peut aussi citer plus récemment ce qui s'est passé avec le JDD, qui fait partie du même groupe Lagardère, hein, qui, après la nomination de Geoffroy Lejeune en tant que rédacteur en chef de...
Geoffroy Lejeune, on le rappelle, oui, qui était rédacteur de Valeurs Actuelles et qui était un chroniqueur régulier de CNews. C'est-à-dire
bien
que
sûr,
sur les émissions de Pascal Praud, il était tout le temps là. Et qui est passé rédacteur en chef du journal du dimanche après le rachat du groupe Lagardère.
Bien sûr, ça a été symbolique aussi de cette droitisation des médias en France.
Est-ce que vous ne pensez pas que s'il y a une droitisation des médias, c'est aussi qu'il y a une droitisation de la population?
Moi, je pense qu'il y a, surtout comme je l'ai dit précédemment, un clivage de la société en France, que les médias y contribuent quand même avec un manque d'opinion. Et forcément que quand on allume le canal 16 de la TNT, qu'on n'est pas familier à certains, à la banlieue ou autre, hein, on va entendre des discours sur, oui, les jeunes de banlieue, je reprends un petit peu le cas
des émeutes. C'est des thématiques,
voilà,
choisies.
Voilà. Des thématiques choisies, mais abordées avec la violence aussi, c'est ça.
Dans ce cas-là, c'est aussi aux consommateurs de mieux s'informer et d'aller sur d'autres chaînes pour voir plusieurs idées.
Bien sûr, mais malheureusement, il y a pas mal de consommateurs, notamment des personnes peut-être plus âgées qui ont aussi leurs habitudes de consommation, qui vont plus consommer de la télévision, les jeunes vont plus consommer les médias sur Internet, etc. C'est aussi des habitudes de consommation qui font que on doit chacun apprendre à sortir de ces bulles de filtre d'information.
Est-ce que vous pensez sérieusement que CNews assure son rôle d'information ou vous pensez que c'est une excellente chaîne d'opinion, mais pas une très bonne chaîne d'information? Est-ce que par exemple, je prends un exemple, si demain il y a un événement en France type, je sais pas, par exemple un événement grave type un attentat, est-ce que votre premier réflexe est d'allumer CNews au détriment de BFM ou d'une autre chaîne d'information, ou vous c'est plus les débats qui vous intéressent ou les intervenants?
Alors moi je pars du principe qu'il faut diversifier ses sources, donc il faut regarder plusieurs types d'informations, donc évidemment je regarderai aussi CNews pour avoir leur point de vue. Et je pense que c'est une bonne chose d'avoir une chaîne qui donne cette opinion-là.
Et vous comprenez du coup ceux qui font la pétition là en ce moment pour ne pas réhabiliter le canal numéro 16
d'ATNT? Je ne comprends pas du tout. Je pense juste que c'est les idées de CNews sont contraires à leur avis et donc ça les dérange.
Donc on attaque le pluralisme si on suit. Exactement. C'est ça que vous nous dites
Exactement.
Ce jour.
Parce qu'il y a d'autres chaînes qui, pour le coup, ont des tendances politiques plus à gauche, qui, elles, ne sont pas attaquées du tout. Et là, dans le cas de CNews, c'est uniquement parce que sa visibilité augmente que les gens sont dérangés par ça.
D'accord.
Je voudrais rebondir sur ça.
Un dernier mot à ma main.
Quelle chaîne dans les chaînes de TNT actuelles, vous parliez justement des chaînes de gauche. Est-ce que vous pouvez me citer une chaîne de gauche dans le...
Ah mais je peux vous citer l'émission Quotidien, par exemple, sur TMC.
Qui, je parle d'une chaîne, pas d'une émission en tant que telle. Une chaîne de gauche. Une chaîne d'information qui aborderait des thèmes plus à gauche, comme le fait CNews pour la droite et l'extrême droite.
Mais alors, je ne sais pas si c'est des chaînes en particulier, mais on peut prendre le cas de certaines émissions. J'ai envie de vous parler de Quotidien, parce que Quotidien, c'est une chaîne qui, pour moi...
ça dépend de la vie de tout à chacun, comme on dit.
Voilà, exactement. Donc, qui aborde des sujets, qui traite les sujets plutôt à gauche, bien qu'ils invitent des personnes à tendance politique de droite, c'est souvent pour leur taper dessus ou pour les critiquer.
En bref, on aura bien du coup, grâce à ce débat, je vous remercie d'avoir participé d'ailleurs, vu vos désaccords. Je tiens à préciser une chose, c'est que toutes les vidéos de la commission parlementaire, étant donné que ça relève du débat public, vous pouvez les voir vous aussi sur YouTube, sur les canaux de LCP, la chaîne parlementaire, vous pouvez les voir. Et l'émission dont on parlait tout à l'heure avec l'infographie de l'IVG s'appelle Enquête d'esprit, diffusée le week-end bien sûr sur CNews. Je vous remercie pour ce débat. Comme je l'ai dit durant le sommaire, on va accueillir maintenant quelqu'un que vous connaissez ici à Radio Campus Paris, mais pas de manière directe. Vous avez déjà entendu sa voix à travers d'autres, vu que cette personne-là travaille pour la matinale de 19h, l'émission Curiosiné ou encore la demi-heure, bien sûr, une émission politique sur Radio Campus Paris. Rosalie est récemment devenue co-autrice pour des chroniques humoristiques et avec elle, on va voir différentes ficelles de son métier, ce qui l'anime et peut-être certaines difficultés dues à son nouveau rôle et le fait qu'elle ait rejoint ce métier de manière récente. Bonjour Rosalie, merci d'être avec nous.
Merci beaucoup de m'avoir invitée.
Mais avec plaisir et on va commencer tout de suite. Alors, tu es co-autrice pour des chroniques humoristiques. Est-ce que tu peux nous dire d'abord qu'est-ce qui t'a poussée à faire ce métier et déjà, est-ce que ça fait longtemps que tu l'envisages?
Alors, ça fait pas mal de temps que j'essaye d'écrire, je ne savais pas vers quoi me tourner, est-ce que c'était plus de la fiction ou est-ce que c'était plus de l'humour? Et ça fait à peu près 3 ans que je me tourne vraiment vers de l'humour pur, parce que c'est quelque chose qui m'a toujours attirée, le stand-up notamment. Et donc je me suis tournée vers ça, parce que aussi quand j'écoutais des humoristes, je me rendais compte que j'avais tendance à dire « Ah mais ils pourraient tourner la blague de cette façon-là, ça serait peut-être mieux », et donc me dire « Bah pourquoi pas le faire moi-même en fait ».
Et tu parlais de certains humoristes, je pense que tu as dû voir beaucoup de chroniques à la radio, peut-être même les émissions d'avant de Coluche, ou peut-être certaines émissions qui passent encore aujourd'hui, certains billets d'humeur. Est-ce que tu as des influences, des inspirations qui font que tu as eu envie de faire ce métier particulièrement?
Alors, c'est vrai qu'en écoutant pas mal la radio, il y a toujours des humoristes qui passent sur chaque radio, notamment on peut penser à France Inter avec des Marina Rollman, Morgane Cardignan, des choses comme ça qui m'ont, moi, énormément, j'ai beaucoup aimé parce que c'était aussi le style d'humour que j'aimais beaucoup. C'est aussi en regardant au début le stand-up à travers des vidéos YouTube du style Baptiste Le Caplain. J'ai aussi Taylor Tomlinson. Maintenant, avec Netflix, on a accès à tellement de stand-uppers américains et anglais qui, eux, sont très prolifiques et ça donne encore plus envie.
Et tu dirais que c'est plus facile aujourd'hui de s'inspirer qu'à une certaine époque où on n'avait pas accès à tout, comme tu viens
Exactement.
De le dire.
On a beaucoup plus accès à des humoristes, alors qu'avant, c'était vraiment aller à New York et regarder les humoristes. Aussi, l'accès à la langue anglaise, qui est beaucoup, pour notre génération, beaucoup plus simple. ça facilite aussi le fait d'aimer le stand-up.
Alors, on va revenir maintenant sur ce que tu fais chaque jour. Est-ce que tu peux nous dire un petit peu ce qui t'anime ? Est-ce qu'il y a une journée type ? Comment tu décrirais pour quelqu'un qui peut-être a envie de faire ce que tu fais toi, ce que tu fais chaque jour ?
Alors, quand on est dans les débuts, c'est à moitié, on écrit, donc ça va être vraiment de se poser, de se dire, ok, sur quoi on a envie d'écrire, c'est quoi le thème, en fonction aussi de l'émission. Quand je suis dans la matinale de 19h, c'est assez livre. Quand je suis dans une émission comme Curieux Ciné, on va faire que sur du cinéma, donc je vais parler de l'actualité. On va beaucoup se renseigner sur de quoi on parle. Et après, ça va être, l'autre moitié, ça va être de se faire du réseau, donc aller dans des clubs de stand-up et discuter avec des personnes s'ils cherchent des co-auteurs ou des co-autrices.
Et c'est pas un peu difficile de manier toutes ces émissions-là au thème diamétral opposé, une émission sur le ciné, une émission politique, est-ce que c'est pas un peu compliqué de gérer tout ça, ou au contraire ça permet d'élargir ton humour, si je peux dire ça, d'élargir un peu ta palette, et est-ce que c'est très formateur de faire ça?
En fait, moi, je trouve ça plus intéressant d'avoir des choses très différentes, parce que comme ça, tu vas pas réutiliser les mêmes choses. Si tu fais que des émissions d'actualité, bah, les blagues, ça va être ce qui va revenir, c'est les mêmes. Plus tu changes, plus ton imagination, elle s'expand.
Alors, ici à Radio Campus Paris, donc, tu travailles pour 3 émissions et ça fait pas très longtemps que tu es devenue co-autrice. Est-ce que ça s'est bien passé, l'intégration ici ? Est-ce que tu as eu des appréhensions qui, au final, se sont révélées peut-être moins graves que ce que tu pensais ? Et est-ce que tu as été confrontée à certains imprévus ou des difficultés auxquelles tu t'attendais pas ?
Alors, au début, je me suis dit que ça allait être très compliqué, que j'y arriverais pas parce que ça me paraissait une montagne. En fait, en écrivant, ça part tout seul. Et après, j'ai vraiment aussi 3 types d'écriture. J'en ai un où je suis plus toute seule et j'ai un deuxième dans la demi-heure où c'est une émission politique où eux, ils écrivent et moi, je rajoute des blagues. Donc, c'est aussi une autre façon de travailler. Donc, ça, moi, ça m'a vraiment enrichi sur plein de façons de faire de l'humour et sur quoi faire de l'humour.
Et je voulais revenir sur quelque chose. C'est vrai que faire de la radio aujourd'hui, dans un temps où le podcast est en train de monter, où le média radio même est en train peut-être de disparaître, ou vouer à disparaître dans les futures années, ce que je n'espère pas bien sûr, mais est-ce que le vouloir être humoriste à la radio et pas être journaliste, qui est quelque chose qui peut-être est plus conventionnel, ça a été difficile pour toi dans l'approche de ce que les gens ont pu penser de ton métier, ou de comment tu l'annonces, ou est-ce que ça a été un peu plus difficile, ou c'est passé crème comme on dit ?
Alors pour moi, journaliste, je ne l'ai jamais envisagé. D'accord. Donc en fait, faire des billets d'humeur et parler de l'humour, ça ne m'a jamais dérangé, parce qu'on parle, en fait, c'est 2 points de vue très différents. Un journaliste va être très factuel, un humoriste va pouvoir parler un peu plus de sa personne et plutôt détourner de façon un peu agréable un sujet peut-être un peu plus dur.
D'accord. Pour conclure cet entretien, et en tout cas, on te remercie encore pour d'avoir participé à cette émission, mais est-ce que tu pourrais nous donner quelques conseils pour quelqu'un qui a, comme je le disais tout à l'heure, on est des étudiants, il y a peut-être des étudiants qui nous écoutent, des auditeurs, des auditrices. Est-ce que tu pourrais nous donner quelques conseils pour quelqu'un qui a envie de se lancer, que ça soit peut-être dans l'humour simplement, dans le spectacle, ou même pour faire exactement ce que tu fais, c'est-à-dire des billets d'humeur ou des chroniques humoristiques à la radio ?
Alors, ça serait vraiment de se donner un cadre. D'accord. Si on n'a pas de cadre, c'est très compliqué d'écrire seul et de se motiver soi-même. Soit c'est le cadre, ça peut être YouTube, avoir une chaîne YouTube, être dans une radio comme là, où il va avoir aussi une deadline. La deadline, ça va être un point fixe où tu ne pourras pas dépasser de là. Ça va être le mardi à 19h, il faut absolument que tu aies écrit quelque chose. Si vous ne mettez pas de deadline, c'est compliqué de se motiver soi-même.
D'accord, bah écoutez, merci beaucoup. Merci beaucoup Rosalie d'avoir participé à cette émission. Je rappelle que cet entretien est bien sûr à réécouter et à voir sur le site de Radio Campus Paris. Ibrahim, t'as une chronique humoristique tout à l'heure, j'espère que il va falloir que tu te mettes au niveau quand même. Je te mets pas la pression, mais bon.
Ça va le faire.
Bon, toi, tu gères très bien la pression. On va un petit peu se calmer. On va parler d'un sujet un peu plus sérieux avec Amama qui revient, enfin qui n'est jamais parti parce qu'elle est toujours là. Mais tu vas nous évoquer maintenant un sujet autour de l'éducation d'un lycée dans le Val d'Oise, hein, si je dis pas de bêtises. Un sujet très sérieux et qui mérite toute votre attention. Je l'ai dit tout à l'heure dans le sommaire. Amama, je te laisse nous évoquer ce sujet.
Merci, Lies. Alors, ce matin, dans mon billet, je suis un petit peu colère. On m'a dit que non, l'égalité des chances n'existe pas. On pourrait croire à un début de cours de SES de terminale, mais c'est le titre de la tribune rédigée par les enseignants du lycée Simone de Beauvoir à Garges-lès-Gonesse dans le Val d'Oise, qui sont en grève depuis le 26 février. Ils se mobilisent ce matin au rectorat de Versailles pour demander une réelle prise en considération des conditions de travail qui se dégradent au fil des années. Et pour cause, hein. Les effectifs du lycée ont explosé ces 3 dernières années. Je peux la refaire,
hein. Bien sûr.
Les effectifs du lycée ont explosé ces 3 dernières années avec pas moins de 35 élèves par classe. Du côté des personnels, le manque aussi se fait ressentir avec 2 CPE pour 1100 élèves.
C'est assez compliqué dans un établissement d'avoir deux CPE pour 1100 élèves, sachant que eux en demanderaient au minimum 3 pour assurer un réel suivi de chacun.
Et encore 3,
ça reste quand même assez insuffisant. Il n'y a également pas d'infirmière à temps plein et un manque d'assistants d'éducation. Les élèves de terminale STI 2D, qui passent le bac du coup à la fin de l'année, se retrouvent aussi depuis le début de l'année sans professeur de sciences de l'ingénieur, une des matières majeures dans leur enseignement. Au sein de l'éducation nationale, en général, le cri d'alarme se fait ressentir, notamment en Seine-Saint-Denis, avec des enseignants également en grève depuis la rentrée, où ils demandent la mise en place d'un plan d'urgence en matière d'éducation dans le département. Cette demande de la Seine-Saint-Denis fait écho aux revendications des enseignants de Garges-lès-Gonesse, qui depuis plusieurs années demandent une dotation globale des horaires réévalués à la hausse. Dans l'établissement, le nombre d'heures d'enseignement par élève ne cesse de baisser au fil des années dans un lycée avec un indice de positionnement social le plus faible de l'Académie de Versailles et inférieur à celui de 99,2% des lycées généraux et technologiques de France.
C'est absolument incroyable.
C'est des chiffres qui sont aberrants. Et aujourd'hui,
c'est terrifiant même.
C'est terrifiant. Dans un des lycées, justement, socialement parlant, les plus inférieurs, on n'y accorde pas autant de moyens que c'est nécessaire.
Dans une ville où l'éducation a besoin vraiment d'être un grand support.
Que je souligne, le label réseau d'éducation prioritaire, REP, n'existe plus pour le lycée, justement pour valoriser cette égalité des chances qui n'en est rien au final. Mais sur les 4 collèges publics de la ville, 2 sont classés REP+, et 2 sont classés REP normal. Donc ça pose aussi ces questions-là. Et les professeurs du lycée général technologique de Garges s'étaient déjà rendus au rectorat mardi dernier, où le recteur avait refusé de les recevoir malgré sa présence sur le site. Donc dans un quinquennat où l'éducation nationale devrait être mise à l'honneur, avec notamment un premier ministre, anciennement ministre de l'éducation nationale, le ressenti est totalement opposé. Et les profs, mais avant tout les élèves, sont laissés pour compte. Comme à l'habitude, le mépris continue.
On se sent pas écouté, oui, c'est ce que les enseignants et les syndicats disent depuis des années. Merci beaucoup à Mama pour cette chronique, pour ce billet d'humeur très intéressant et qui relève encore de beaucoup de choses à faire dans notre pays. On parle beaucoup des JO, mais il y a encore des choses à améliorer dans ce pays. Et on espère que dans le futur, ça sera...
Je rebondis sur ça, mais par rapport aux JO, les professeurs d'EPS appellent à la grève le 15 mars, normalement, justement par rapport à ça, sachant qu'on parlait aussi de les inclure dans ces JO-là, et ils n'ont pas eu...
Est-ce qu'il y aura des JO, même?
C'est la question qu'on se pose
Je me pose de plus en plus la question.
Bonne question.
Ah, Ibrahim est là. Il est toujours là. Lui aussi, il est toujours là. Je ne sais pas qui est parti depuis tout à l'heure, mais lui aussi est toujours là. Ibrahim, tu es là pour ta chronique, le temps additionnel.
De quoi tu vas nous parler aujourd'hui? Bon, parlons un petit peu de la concentration des médias en France.
Bien sûr.
La concentration ou la convergence des médias. C'est lorsque Iliès, vous et Mathieu décidez d'acheter des médias pour assurer un contrôle total sur les médias de masse. En gros, c'est ce que Bolloré et Drahi ont fait.
Oui, ils travaillent avec le groupe Next Radio, RMC et BFM. Moi, j'ai pas les moyens personnellement, mais...
Je te souhaite, en tout cas. je vous donne un exemple. En France, on a 11 milliardaires qui détiennent 80% de la presse. Ça veut simplement dire que l'opinion des 67 millions de Français est façonnée par 11 personnes. Bon, je rentre pas là-dessus parce que c'est antidémocratique. Mais la question est-ce antidémocratique ? Ce n'est pas à moi de le dire. Peut-être, je peux vous donner une petite liste. Le groupe Bolloré. Et la liste est finie. Bref, en vrai, ce n'est pas méchant parce que le groupe Bolloré est représenté par... Pascal Pro sur CNews et Europe 1, le polémiste Cyril Hanouna et le mec qui a dit « Je suis militant du journalisme, mais pas d'un bord politique ». Bref, vous l'aurez deviné, je parle de Geoffroy Lejeune.
Bon, on n'a pas parlé d'Éric Zemmour.
Sachant que Geoffroy Lejeune, il est parti de Valeurs Actuelles et maintenant il est rédacteur en chef de JDD.
Journal du dimanche.
On dit rien. Bon, je laisse la place à Elias de donner de la visibilité à Pascal Pro. Mais franchement, le pire, c'est que de plus en plus de Français qui prennent Hanouna et Pascal Pro au sérieux. 1 million de téléspectateurs en moyenne pour TPMP. 8 millions de Français regardent ces news chaque jour. Mais on se rend compte...
Mais 1 million encore, t'es gentil, c'est peut-être même plus, même 2 millions, 3 millions.
Ah mais ces news, c'est 8 millions.
Oui, c'est quelque...
8 millions, mais on se rend même pas compte. Après tout, c'est dommage pour le pluralisme qui est mis en danger par l'Octogone Groupe Atlis et le groupe Bolloré. En gros, les deux se battent pour savoir qui va droitiser la France en premier, si ce n'est pas encore le cas. Je peux imaginer comment les deux mecs se regardent devant un miroir pour enfin se dire, tiens... Je viens d'acheter le JDD, il me reste la Corse et le Pas-de-Calais. Pourquoi pas? Quand on parle de pluralisme, on parle de pluralité de voix, d'opinion dans l'espace médiatique. Alors, il est très facile de constater que ces deux mecs se foutent de la gueule de la loi numéro 2016-1524 du 14 novembre 2016 visant à renforcer la liberté, l'indépendance, le pluralisme des médias. Cela se fait par l'impartialité, parce que oui, l'impartialité, des invités toutologues, notamment Malik Bentala sur CNews.
Ah, très grande parodie, on vous la conseille si vous ne l'avez pas encore vue.
Il ne faut pas rater celle-là. Et je vous rappelle aussi que Patrick Drahi, ce sont les SER BFM TV dans toute la France. Quant à Bolloré, il y a Cyril Hanouna, Canal+, Pascal Pro sur Radio Europe 1 et CNews, Paris Match et bientôt l'Elysée. En tout cas, je ne l'espère pas. Enfin, il y a l'Avare, je veux dire, une commission d'enquête sur la chaîne CNews. Bon, Iliès, je pense que j'ai assez dit. Je vais vous laisser sur ça et bonne dégustation.
Bah écoute, merci beaucoup. Merci Ibrahim pour cette chronique de fin d'émission. Je tiens à remercier toutes les personnes qui m'ont aidé à écrire, toutes les équipes de Radio Campus et notre professeur ici de l'atelier radio de Villetaneuse pour nous avoir invités ici dans ces beaux locaux. Merci à tous. Il est midi 46, vous écoutez Radio Campus Paris et à la prochaine.